chronique en débat, c'est l'actualité éducative avec l'éditorial de l'Esprit, comme l'a dit Maudie Johnson, analysé et commenté par Laurent Ladouce. La chronique en débat, c'est chaque semaine sur la web radio du groupe Éduc Action.
Chers passionnés des questions éducatives, bonjour et merci de prendre une fois de plus le rendez-vous hebdomadaire de votre émission Chronique en débat. La question des domestiques et leur rôle crucial dans les ménages. C'est bien la thématique qu'aborde cette fois-ci notre chroniqueur, sociologue, philosophe et planificateur de l'éducation, Maudie Johnson. Maudie Johnson, eh bien, dans sa pensée du jour, aborde la question des vidomégons comme on a coutume de les appeler en langue locale fond. Honneur à ces femmes de ménage qui travaillent d'arrache-pied pour le bien-être des foyers qui les recrutent. Le 31 juillet dernier, c'était la journée internationale de la femme africaine. Femme africaine, femme brave, le chroniqueur le pense si bien, c'est pourquoi il y consacre sa plume. Toutefois, l'autre aspect du sujet est bien que ces femmes de ménage ne soient pas toujours majeures. La question des droits de l'enfant refait aussi surface à travers la chronique de Maudie Johnson, deux experts dans ce studio pour intervenir et se prononcer sur ce sujet qui n'est pas des moindres. Mais avant de revenir à nos invités pour satisfaire à cet exercice de décryptage, voici la chronique du jour intitulée « Femmes battantes » que nous livre Rodrick Arotondji.
Bravo, vraie femme battante. Le jour où Fatih arriva la première fois chez les Lawson, la dernière des enfants, qui avait déjà 16 printemps, cria « Maman, j'ai envie de manger des frites !» La mère, grande dame évoluée, ayant vaguement été à l'école jusqu'à l'université selon elle, appela la domestique et lui intima l'ordre de rôtir des pommes pour l'affamée. Membre de femmes émancipées en politique et enfin soulagée d'avoir une nouvelle bonne, elle comprit un long moment plus tard qu'elle avait embauché une catastrophe ambulante. Le résultat, produit avec les pommes de terre, ressemblait à des poissons noyés dans une mare d'huile avec des croûtes innommables, aboutissement calamiteux d'une tentative d'omelette. Quoi ? Ne pas savoir faire des frites au XXIe siècle ? Elle se redressa sous l'œil amusé de sa petite sœur, venue rendre visite, et voulut souffleter l'inutile servante. Celle-ci ne dut son salut qu'à la courte dame, qui calma le juste courroux de cette femme moderne, laquelle avait juste oublié d'apprendre à ses propres enfants à s'occuper d'eux-mêmes. Elle renvoya, séance tenante, la villageoise, venue de quelques vagues brousses du septentrion où on apprêtait d'autres mets. Sa sœur, commerçante, décida de partir avec la bannie, dont la mine à la fois déconfite et étonnée affichait le dépit de n'avoir pas avoué, dès le début, sa méconnaissance de ce plat important, mais inconnu dans ses lointaines contrées. Sa nouvelle maîtresse apaisa son désarroi et l'installa dans une chambre avec une autre servante. Elle se coucha, pour la première fois, sur un matelas après un copieux repas. Le lendemain, comme à son habitude, elle se réveilla aux aurores, prête à œuvrer. Mais tout était encore calme. Elle attendit et prit la résolution suivante. Écouter, comprendre et surtout faire comprendre ses capacités. La maisonnée se réveilla. Sa voisine domestique en premier, qui s'occupa d'expédier quelques travaux, se lava et à peine la maîtresse levée partit pour le marché. La maîtresse s'aperçut enfin de son existence avec une mine soucieuse. Que ferait-on d'elle ? Décidée à lui donner une chance, elle lui fit visiter la vaste habitation et lui posa quelques questions. Qui était-elle ? Que savait-elle faire ? Elle répondit dans un français acceptable qui lui plut. La maîtresse la fit passer dans toutes les chambres où elle aperçut les quatre enfants en train de se réveiller. Dans la cuisine et dans un magasin rempli de vivres, dépassant de loin celui d'Issa, le riche commerçant de la contrée d'où elle venait. Elle retint de toute la visite qu'elle reprouvait le vol et le mensonge et lui donnait une chance pour démontrer ses qualités. Les enfants, comme tous les gosses actuels, savaient tout faire, sauf s'occuper d'eux-mêmes. Elle se mit au travail, récura la maison de fond en comble et prépara quelques repas à base de riz pour les enfants et un crin-crin accompagné d'une pâte de maïs. Cela surprit agréablement la patronne qui n'avait rien demandé et s'attendait à rentrer en cuisine pour son mari. Chacun mangea, surtout le maître de maison, dont le visage renfermé sembla se délier à chaque bouchée de pâte au crin-crin. Il aimait, au contraire de ses enfants, les repas du terroir. Le lendemain, elle demanda à sa patronne, qui avait inspecté la maison, avec une approbation étonnée, de lui acheter l'essentiel pour préparer de liam pilé pour le dimanche. À 13h, ce jour du Seigneur, tout était prêt. Les effluves répandues dans la maison présageaient un repas des plus délicieux. Le bougon Marie résistait à la charge supplémentaire d'une nouvelle servante. Or, elle travailla si bien la pâte d'yam, souhait à souhait, qu'il soutint devant l'Éternel avoir vu le potentiel de cette fille au premier regard. Il se chargerait de sa solde. La politicienne arriva sur ses entrefaites et sans façon se mêla à la ripaille. Elle s'aperçut de son jugement hâtif et fit mille crasses pour récupérer en vain la servante renvoyée. Celle-ci prit rapidement du galon et devint la gouvernante. Son adversaire, le plus dangereux, n'était ni les parents, ni les enfants qu'il appelait tous grande sœur, mais la véritable directrice du budget, qui était la première servante, demoiselle butée et fidèle. Elle dirigeait le commerce de la patronne avec hâgne, homme roqué et rechignait souvent à sortir de l'argent pour les besoins définis par la nouvelle à laquelle on avait fini par faire complètement confiance. Les parents semblaient se paître dans d'innombrables soucis et contraintes et avaient la sagesse de marquer leur confiance et bienveillance à des filles qui connaissaient mieux la vie que leurs propres enfants. Elles les traitaient comme telles et se surprenaient à se demander si elles ne les auraient pas facilement échangées contre cette progéniture turbulente qui n'avait comme titre de gloire que de récolter de bonnes notes en classe. Quand se décideront-ils à collecter ces bonnes notes dans la vraie vie, ne serait-ce qu'auprès de véritables femmes battantes qui n'avaient pas eu la chance d'être nées à la bonne place pour aider à éduquer et développer ce pays.
Merci à Rodrigue Arotondji qui a prêté sa voix au chroniqueur Maudie Johnson pour nous livrer la quintessence de sa réflexion du jour. Comme je l'annonçais, j'ai avec moi dans ce studio deux invités. À ma droite, Rosalie Rungbo, elle est première secrétaire du Parlement des jeunes du Bénin. Bonjour Rosalie.
Bonjour Gloria.
Merci d'avoir accepté notre invitation. À ma gauche, j'ai Christophe Mekou, pour qui Éducation n'est plus étranger. Christophe Mekou, qui est le directeur exécutif de l'ONG Assovi, qui milite pour la cause des enfants, mais aussi des femmes. Christophe, bonjour.
Bonjour, Gloria.
Ravi de vous compter parmi nous aujourd'hui.
Le plaisir est partagé.
En plus de nos deux invités en studio, vous aurez l'occasion de découvrir d'autres experts qui vont se prononcer sur la thématique du jour, celle des domestiques. Ce sera bien sûr au cours de cette émission. Ma première question, elle s'adresse à vous, Rosalie. Que vous inspire cette chronique de Maudie Johnson, cette chronique qui magnifie les domestiques et les qualifie de femmes battantes?
Merci Gloria. J'ai écouté attentivement cette chronique. Il faut dire que dans les deux cas, il s'agit des domestiques adultes, d'où le nom de femmes battantes, puisqu'elles travaillent afin de pouvoir gagner de l'argent et se construire après. Dans le premier cas, on a parlé d'une domestique qui a massacré le repas qu'on lui a demandé de faire, alors qu'il y a l'enfant de sa patronne qui a déjà 16 ans, mais incapable de préparer. Dans le deuxième cas, il s'agit d'une rivalité, si je peux m'exprimer ainsi, entre deux domestiques engagés. Le chroniqueur, dans ces deux cas, a soulevé un problème crucial, le problème des vidomégons et les réalités qui se déroulent dans chaque famille avec chaque cas de vidomégons engagés.
Alors Christophe, pour vous, le chroniqueur a-t-il raison de qualifier les domestiques de femmes battantes?
Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui suivent aussi l'émission. J'ai été très sidéré par le test et le chroniqueur a tellement raison de les qualifier de femmes battantes. Femmes battantes, en ce sens que ce sont des personnes, quand elles arrivent, elles doivent s'efforcer à s'adapter à leur nouvel environnement, à s'adapter à leurs nouvelles conditions. Femmes battantes, parce que ce sont des personnes, quand elles viennent dans la famille, elles doivent s'intégrer pour comprendre le code de cette famille. Et encore, femmes battantes, en dépit des violences que vivent ces personnes, en dépit du non-respect des droits de ces enfants, de ces jeunes filles, elles tiennent. Elles deviennent, comme c'est dit dans la chronique, la gouvernante, la maîtresse de maison, en dépit de tout ça. Donc le chroniqueur a tellement raison en parlant de femmes battantes, vu tout ce que ces jeunes filles apportent et au bien-être de la famille.
Nous parlons des domestiques, justement pour mieux appréhender le sujet. Découvrons à quoi se résume réellement la journée d'une domestique. Pour vous, voici quelques témoignages recueillis à travers cette voix populaire. J'ai été enfant placé. Le matin, quand tu te lèves, tu travailles, tu fais la vaisselle.
La maîtresse de maison elle-même ne prend pas le soin de confier un travail précis à son enfant. C'est la domestique qui fait tout, sans compter le fait que ces enfants dont tu prends soin ne t'accordent aucun respect. Le traitement que reçoit la domestique est le même qu'il s'agisse d'un membre de sa famille ou pas. C'est pour cette raison que moi, mon enfant ne sera pas domestique. C'est la domestique qui fait tout le travail que même leurs propres enfants ne peuvent faire. Même le retard est observé dans la pitance qu'on te donne. Balayer, faire la vaisselle et tout. Tu ne peux pas être là pendant que les enfants de ta patronne travaillent. On parle de domestique. C'est à toi de tout faire. Faire la vaisselle, la lessive, à tous les membres de la famille. Tu ne peux rien refuser. Le travail que les enfants doivent faire, c'est toi la domestique qui le fait. C'est obligatoire. Quand j'étais chez ma patronne, lorsque je prends la bouillie le matin, ça fait à 16h, 17h avant qu'on ne mange encore. Parfois, lorsqu'on est gentil avec toi, c'est à 13h que tu manges. Mais avant ça, tu vas vendre et travailler sans relâche. Tu vaques à plusieurs occupations au même moment. C'est ainsi que tu seras au four et au moulin jusqu'au soir. Et même le soir, c'est à toi de faire la cuisine et d'autres travaux. J'avais 12 ans à l'époque. Tout dépend de chez qui tu restes. Certains prendront soin de toi et d'autres non. Celles qui parfois prennent soin des domestiques n'ont pas souvent d'enfants et les traitent comme leur progéniture. Pour les autres qui ont déjà d'enfants, la domestique doit tout faire et ce n'est pas bien. On doit considérer la domestique comme sa progéniture. Même si tu n'en es pas la progénitrice, c'est une femme comme toi qui l'a mise au monde. Une personne qui ne te considère pas ne peut placer son enfant chez toi. Celles qui prennent les domestiques doivent en prendre soin. Elle n'a pas besoin d'être ton enfant avant que tu ne la soignes quand elle tombe malade. Certaines patronnes exigent des domestiques qu'elles se soignent et se nourrissent elles-mêmes, ce qui n'est pas bien. Et voilà les témoignages de ces femmes et jeunes adolescentes auparavant domestiques que nous avons rencontrées dans la ville de Cotonou. Un quotidien qui se résume à accomplir différentes tâches ménagères et travailler sans répit du matin au soir vraisemblablement. Christophe, la femme d'ores et déjà est celle à qui incombe la réalisation des tâches ménagères. Lorsque vous écoutez ces témoignages, quels sentiments vous animent?
En écoutant ce témoignage, ça retrace ce que vivent les enfants que nous accompagnons. Ce témoignage retrace le vécu de ces enfants Vidomegon. Et moi, je pourrais dire qu'au niveau de ces enfants Vidomegon, c'est sorti dans les témoignages, la catégorie la moindre, ce sont les enfants Vidomegon qui sont bien entretenus. Elle est très moindre. Sur 10, on pourrait avoir un par là. Mais la grande catégorie, c'est la catégorie où les enfants ou les jeunes sont appelés à réaliser tout, sont appelés à être exploités. Aujourd'hui, avec l'Organisation internationale du travail, les tailles sont définies en fonction des âges. Mais ces différents aspects ne sont pas considérés et les enfants sont exploités.
Rosalie, que vous inspire ce témoignage?
Comme l'a dit Christophe, ce témoignage trace effectivement les vécus de ces enfants placés, communément appelés Vidomegon. Même dans notre entourage, il nous arrive d'observer des faits pareils que ce que le témoignage a décrit. Tu es à côté, tu as des voisins qui ont des enfants placés et qui maltraitent sévèrement ces enfants à un point où toi-même, tu as parfois pitié de ces enfants placés dans ces différentes familles. En temps normal, un enfant, même si ce n'est pas vraiment le tien, tu dois être quand même en mesure de traiter cet enfant comme si c'était pour toi. Parce que c'est quand même un être humain, c'est quand même un être fait de chair et de sang, tout comme toi. C'est vraiment triste d'assister à ces cas de violence faites aux enfants, surtout les enfants de bas âge, les Vidomegon, qui sont en quelque sorte des mineurs.
Alors, pensez-vous que tout foyer a nécessairement besoin d'une domestique?
Mon avis reste partagé, c'est-à-dire c'est oui et c'est non. C'est oui dans le cas où la majorité des foyers actuellement sont composés de parents fonctionnaires, où on va au boulot le matin et puis on rentre le soir. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Si c'est des enfants en bas âge qui ne sont pas encore aptes à être à l'école, c'est difficile. Il faut trouver quelqu'un qui va pouvoir les surveiller comme
les parents devraient le faire.
Voilà, comme les parents devraient le faire. Mais c'est rare de trouver une tante qui viendra rester avec toi dans ton foyer, surveiller tes enfants. D'où certains parents font recours à des personnes extérieures pour les payer afin que ces derniers veillent sur leurs enfants. Dans le second cas, je dirais non. Parce que même si vous êtes tous les deux fonctionnaires, il faut quand même trouver un moyen de manager son calendrier. De manager son calendrier afin de pouvoir trouver du temps pour ses enfants. Parce que tellement on court derrière le boulot qu'à un moment, les parents deviennent carrément absents dans la vie de leurs enfants.
Et là, c'est les domestiques qui prennent le relais.
Exactement. Ce sont les domestiques qui prennent le relais. Et parfois, la femme même, la maman, elle court derrière tellement son boulot, son argent, qu'elle devient carrément absente dans son foyer. Et parfois, c'est la domestique qui la remplace
qui
dans son foyer.
Qui donne sa propre éducation
à ses enfants. Et voilà. Au finish, elle peut devenir maintenant maîtresse de la maison.
D'accord. La femme de ménage qui s'évertue à donner le meilleur d'elle-même, qui travaille d'arrache-pied et qui certainement, allons-nous le dire, a la matière requise pour se défendre dans la vie. Laurent Ladouce dit de cette femme qu'elle a su prendre la meilleure part. Laurent Ladouce est journaliste. Il intervient dans cette émission depuis Paris. Voici son commentaire.
Bonjour, très chers auditeurs. Dans sa chronique, Maudy Johnson fait revivre un trio dont il est coutumier. La patronne moderne, le mari conservateur et la servante à l'ancienne. Plutôt bonne des champs que bonne des villes. L'éditorial contient deux leçons. L'auteur illustre d'abord la différence de leadership entre une patronne autoritaire et sa sœur cadette. La première patronne juge hâtivement qu'une bonne incapable de faire des frites pour une adolescente n'est bonne à rien. La deuxième patronne observe le savoir-faire de la domestique, mais son savoir-être compte davantage pour elle. Elle voit une jeune femme désireuse d'être formée, mais avec respect. La sœur aînée milite pour les femmes émancipées en politique, mais traite la domestique venue du Nord comme une sous-femme sans dignité. Rappelons que dans la parabole de Marthe et Marie, le Christ rabroue la sœur Marthe, qui est restée affairée aux nombreuses tâches du service, mais loue Marie, qui est restée écouter le maître. Pour Jésus, Marie a choisi la meilleure. Ici, les rôles sont inversés. On a deux maîtresses pour une domestique et la cadette perçoit la meilleure part chez la servante. Cette leçon me plaît, mais je retiens surtout l'autre leçon, car on peut se tromper sur les servantes. Il est plus fâcheux de s'égarer en éduquant ses enfants. Au début de l'éditorial, on apprend que la femme moderne, très investie en politique, avait juste oublié d'apprendre à ses propres enfants à s'occuper d'eux-mêmes. Tiens, tiens, plus tard, on apprend que chez la deuxième patronne, les enfants, comme tous les gosses, savaient tout faire, sauf s'occuper d'eux-mêmes. Ah, c'était donc cela le thème majeur de cet éditorial. On parle de patronnes et de servantes, mais l'essentiel n'est-il pas ailleurs? L'éditorial s'achève sur cette note douce-amère. Les parents avaient la sagesse de marquer leur confiance à des filles qui connaissaient mieux la vie que leurs propres enfants. Ils les traitaient comme tels et se surprenaient à se demander si elles n'auraient pas facilement échangé contre cette progéniture turbulente qui n'avait comme titre de gloire que de récolter de bonnes notes en classe. Retenons donc deux leçons. Quand tu choisis ta servante, vois son tablier, mais surtout son âme. Quand tu éduques ton enfant, donne-lui une tête en argent massif, mais surtout un cœur et des mains en or. Je vous souhaite une très bonne semaine et une excellente chronique en débat.
Christophe, vous venez de suivre le commentaire de Laurent Ladouce. Laurent justement dit ceci. Au début de l'éditorial, on apprend que la femme moderne, très investie en politique, avait juste oublié d'apprendre à ses propres enfants à s'occuper d'eux-mêmes. Plus tard, on apprend que chez la deuxième patronne, les enfants, comme tous les gosses actuels, savaient tout faire, sauf s'occuper d'eux-mêmes. Et dans sa chronique, Maudy Johnson paie le quotidien de deux familles au sein desquels les enfants ne savent pas prendre soin d'eux-mêmes. L'auteur n'a pas manqué de souligner cet aspect de la question et surtout, on a fait mention à deux reprises dans sa chronique. Dans les témoignages écoutés tout à l'heure, certaines ont su bien mettre l'accent sur ce fait. Pour vous, la présence d'une domestique épargne-t-elle les enfants de la maîtresse de maison d'accomplir les tâches ménagères?
Je dirais non. La première des choses qu'il faille faire ou voir, c'est essayer de définir les rôles. La domestique, qu'est-ce qu'elle fait? Moi, en tant que maîtresse de maison, qu'est-ce que je fais? Mais il se fait que dans nos réalités actuelles, on attribue toutes ses fonctions, tous ses rôles à la domestique et on se passe de ce que, en tant que maîtresse de maison, on doit faire. On se dit, comme j'ai quelqu'un, bon, je l'exploite, j'utilise. à la fin, cette personne est payée ou à la fin, cette personne bénéficiera peut-être d'une formation ou sans doute, parce qu'on parle des vies de Mégon, soit tu viens et à la fin, tu perçois quelque chose, soit c'est un contrat entre tes parents avec et la famille et tu restes quelques années, tu apprends un métier. Donc, dans ces différents types de contrats, les maîtresses se disent, bon, je suis en train de payer, oubliant que c'est un enfant qu'on peut aider. Oubliant qu'en tant que maîtresse, je dois jouer mon rôle. Au-delà de ça, il faudrait aussi aller dans la bonne éducation, les enfants. Ce n'est pas parce que c'est une domestique ou un enfant vit de Mégon que cet enfant fera tout. D'où la nécessité, aujourd'hui, on parle du partage du rôle dans la famille. Il faudrait que chacun arrive à jouer son rôle. Sa vie de Mégon, avec son âge, en tenant compte de son âge, elle nous aide. Parce qu'il y a habituellement cet aspect qu'on oublie. L'enfant vie de Mégon apporte une aide. Donc cette aide-là, comment on la mesure, on la juge? Donc c'est ce qui fait aujourd'hui, en oubliant un peu ce caractère, nous sommes plus dans le commerce. Je paye donc en retour, elle devient ma chose.
Elle fait tout ce que je veux.
C'est ça.
Rosalie, vous êtes première secrétaire du Parlement des jeunes du Bénin. Retenons tout de même que les femmes de ménage, ces domestiques dont nous parlons, ne sont pas toujours des adultes. On le souligne si bien au cours de cette émission. La loi numéro 2015-08 portant code de l'enfant en République du Bénin, en son article 2, qualifie d'enfant tout être humain âgé de moins de 18 ans. Justement, des jeunes filles de moins de 18 ans, on en retrouve plein aujourd'hui à effectuer ce travail de domestique. Parmi celles que nous avions eu à questionner, certaines avaient l'âge de 12 ans. Pour ou contre qu'une mineure soit femme de ménage?
Personnellement, je pense que femme de ménage doit être une adulte. Donc, elle doit déjà avoir au moins 18 ans. Parce que moins de 18 ans, certains enfants placés subissent des traumatismes compte tenu de la maltraitance qu'elles subissent. Et donc, pour vraiment lutter contre la maltraitance des enfants, l'idéal serait que les femmes de ménage soient des adultes d'au moins 18 ans. C'est vrai que dans la réalité, les maîtresses de ménage, dans la crainte de perdre leur foyer, parce qu'elles se disent, si je prends une femme de ménage adulte, elle risque de venir rivaliser dans mon foyer. Elle craint de perdre le mari. Mais normalement, la crainte ne devrait pas y être. Parce que M. Christophe vient de parler de responsabilité, du rôle que chacun doit jouer dans son foyer. Si en tant que maîtresse de foyer, tu prends soin de ton mari, tu fais ce que tu dois faire, tu t'occupes de l'éducation de tes enfants, il n'y a pas de crainte. La domestique apporte une aide normalement. Elle n'est pas là pour s'occuper de l'entièreté des tâches qui se retrouvent dans ton foyer. Si tes enfants, même s'ils ont 5 quand tu dois leur apprendre au moins à faire la vaisselle et non les laisser dormir jusqu'à midi pendant que ta domestique est en train de travailler. C'est inconcevable que même à partir de 10 ans, ta fille ne puisse pas préparer à la maison. Les retombées s'observent plus tard quand ses enfants rejoignent à leur tour le foyer. L'idéal pour moi, c'est qu'on maintienne, il faudrait même que les décideurs votent pour une loi qui maintient 18 ans comme l'âge
idéal
pour engager une femme de ménage.
Une femme de ménage. D'accord. Christophe, un enfant de moins de 18 ans et même on en trouve un de moins de 10 ans qui travaille sans relâche. Porte-t-on atteinte à ses droits?
Un enfant doit rester avec ses parents. Un enfant doit vivre avec ses parents.
Et oui, mais il maintenant, y a certaines situations qui font que...
Avec notre situation de pauvreté, avec les différentes situations, ça fait que nous sommes obligés ou de trouver des palliatifs.
Et peut-être est-elle devenue orpheline très tôt?
Oui, avec ces différents cas. Un enfant, c'est ça que je dis, un enfant ne doit pas normalement être amené à faire ses travaux de domestique, tout ça. Mais vu les conditions, lorsque ça se présente, d'où la nécessité de la personne qui travaille ou qui prend cet enfant. Un enfant de 10 ans, est-ce qu'un enfant de 10 ans peut prendre quelque chose de 50 kilos? Non. Un enfant de 10 ans, est-ce qu'il peut charger une grande bassine d'eau sur la tête? Donc, c'est d'arriver au niveau de chaque catégorie d'enfant, ce que l'enfant peut faire. Je suppose si c'est mon enfant qui a moins de 10 ans, est-ce que je serais capable de lui mettre une grosse bassine sur la tête? Si je me dis non, ça doit être la même chose pour cet enfant aussi. C'est le fait qu'on n'arrive pas à faire cette différence qui nous amène à exploiter ces enfants. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser un enfant. Maintenant, comme je disais, pour travailler, c'est à partir de 15 ans. Mais à ce niveau aussi, il y a les travaux spécifiques que chaque enfant doit faire en fonction de son âge.
Et donc, vous soutenez qu'il faut reconsidérer les travaux qu'on confie à ces enfants-là en fonction de leur âge?
Naturellement, pour éviter de les exploiter. Parce que quand on fait des travaux, on confie, on demande des enfants de faire des travaux qui dépassent leur âge, on les exploite. Ça ne voudrait pas dire aussi que l'enfant ne doit pas travailler. L'enfant doit travailler. Ça fait partie de l'éducation aussi. Mais c'est de savoir ce qu'il faut confier à l'enfant. Un enfant de moins de 10 ans. Le dit de balayer, c'est pas encore l'exploiter. Donc il y a tous ces aspects-là qu'on doit tenir compte.
Alors, femme battante, oui. Nous allons y ajouter aussi filles battantes qui ne sont souvent pas reconnues à leur juste valeur. Dans les témoignages que nous avions écoutés tout à l'heure, une jeune adolescente a fait savoir qu'à l'âge de 12 ans, elle était déjà domestique. Cerise sur le gâteau, quand sa patronne lui donne la bouillie le matin, le plus souvent, c'est à 17 heures qu'elle pouvait avoir droit à une autre pitance. L'ONG Assovie fait la promotion de la femme, des enfants et défend leurs droits. Que faites-vous dans ce sens pour promouvoir une amélioration des conditions de travail des enfants placés?
Okay. Il y a des enfants de moins de 12 ans qui sont en Ville-Domingon, 6 ans, 7 ans, qui sont en Ville-Domingon. Et au niveau de Assovie, d'abord, nous travaillons plus au niveau de la sensibilisation. Et le phénomène aujourd'hui reste, mais ça a considérablement diminué. Nous avons des programmes qui permettent à ces enfants de 10 jusqu'à 17 ans, 18 ans, de faire le programme de cours accéléré. Et ces programmes de cours accélérés permettent à ces enfants d'aller dans la matinée, recevoir une éducation. Et au bout de 3 ans, ils vont au CEP et ils continuent dans la formation professionnelle. Donc, nous négocions avec les parents de nous accorder la matinée.
D'accord.
Et dans la matinée, nous travaillons avec ces enfants. Et au bout de 3 ans, ils vont au CEP. Et lorsqu'ils sont admis, ils vont soit au collège, soit ils vont en formation professionnelle. Et ceux qui sont un peu âgés, toujours dans cette négociation de médiation, il y a certains qui vont en formation professionnelle, où ils apprennent un métier, où à la fin, ils ont le certificat de qualification au métier. Et on les accompagne un peu pour qu'ils puissent, et comment on appelle ça, rentrer dans la vie active. Mais ce n'est pas facile.
Alors, comment arrivez-vous à déceler ces enfants placés?
Oui. Bon, nous avons beaucoup évolué dans nos stratégies. Sinon, au départ, il y avait de porte à porte. Nous allons dans les sensibilisations, nous tapons aux portes, nous discutons avec les familles. Mais aujourd'hui, nous avons cet appui des chefs quartiers, Assovie dans les marchés surtout. Les responsables des marchés aussi nous aident. Donc, lorsqu'il y a un enfant qui est peut-être identifié et que peut-être nous n'avons pas vu, ces différentes personnes nous appuient. Et nous avons l'association des parents d'élèves, de nos apprenants, qui sont en quelque sorte nos relais, qui partagent l'information. Et quand ses parents rencontrent ces différents cas, ils nous font appel et nous, avec l'équipe que nous avons, psychologues, assistants sociaux, éducateurs spécialisés, nous trouvons les stratégies pour rencontrer les parents, pour échanger avec eux, afin que cet enfant puisse bénéficier des programmes. Et pour dire vrai, les parents, même quelquefois, sont fiers parce qu'il y a certains parents qui ne savent pas lire. Ce sont des enfants-là pour les composer. Compose-moi le numéro de tel client. Donc, c'est les enfants qui font, ou des fois, vous voyez l'enfant qui réussit au CEP, qui n'a jamais été à l'école et qui réussit. Donc, tout ça, ça donne une certaines fiertés aux familles. Donc, voici les différentes stratégies que nous développons avec ces différentes familles, ces parents. Mais nous sommes beaucoup plus au contact des parents. Nous échangeons, nous les formons sur les droits, qu'est-ce qu'il faut faire, les devoirs, comment il faut accompagner, l'accompagnement psychosocial.
D'accord.
Parce que ce sont des enfants qui sont blessés, donc il faut savoir comment les accompagner.
Exactement. Aussi. Alors, Rosalie, que faut-il faire selon vous pour promouvoir l'épanouissement des enfants placés?
Promouvoir l'épanouissement des enfants placés, je dirais qu'il faut un observatoire qui doit être composé des différentes ONG qui s'occupent des droits de la lutte contre le travail des enfants. Son rôle sera de servir d'intermédiaire entre l'enfant placé et sa patronne ou son patron. Avant d'engager un Ville-Domingon, il faudra signer peut-être un contrat. Et dans ce contrat, il doit avoir des conditions que la maîtresse ou le maître de maison doit respecter. Entre autres, ils doivent assurer l'alimentation équilibrée de l'enfant. Les travaux forcés, les travaux qui dépassent l'enfant doivent être bannis, quoi. C'est que l'enfant doit être traité comme un membre de la famille. En gros, c'est ça. Et quand la maîtresse, elle lit les conditions, si ça lui convient, elle prend. Et on doit effectuer le suivi. Parce que si on ne commence pas par là, je pense que lutter contre le travail des enfants, nous allons beau chanter. Mais entre les quatre murs, ce qui se passe, c'est autre chose. Ça ne va jamais cesser. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment mettre en place un observatoire du genre qui va quand même régulariser la manière dont les enfants sont employés.
D'accord. Alors, Rosalie, les domestiques, ces femmes battantes imposent leur savoir-faire et pourquoi pas leur savoir-être et on arrive à gagner la totale confiance de leur patron, a fait savoir le chroniqueur. Laurent Ladouce, dans son commentaire, soutient, en revenant sur quelques passages de Maudy Johnson, que le thème majeur de cet éditorial est le fait que les domestiques aient pris une place si cruciale que les parents en arrivent à ne plus éduquer convenablement leur propre progéniture. Laurent qualifie ce passage de la chronique de douce amère. Je cite « Les parents avaient la sagesse de marquer leur confiance à des filles qui connaissaient mieux la vie que leurs propres enfants. Elles les traitaient comme telles et se surprenaient à se demander si elles ne les auraient pas facilement échangées contre cette progéniture turbulente qui n'avait comme titre de gloire que de récolter de bonnes notes en classe. Dites-moi, l'éducation d'un enfant doit-elle se résumer uniquement au fait de lui enseigner la voie de l'intellect?
Bien sûr que non. Le mot éducation, ça a plusieurs volets. C'est vrai qu'on a l'éducation intellectuelle, nous avons l'éducation sociale, nous avons l'éducation économique, ainsi de suite. À la maison, on nous apprend tout, travailler à l'école, comment vivre en société. Donc, je me dis que dans un foyer, la maman ne doit pas, ou bien les parents ne doivent pas se limiter au fait que « Ah, mon enfant ne fera rien, il faut qu'il aille chercher son cahier, il doit étudier, avoir de bonnes notes, et ça s'arrête là, mais non. » Après le diplôme, l'enfant est appelé à vivre dans une société donnée. Si déjà au préalable, vous n'avez pas eu à lui imprimer les bases de savoir vivre en société, ça devient autre chose. Ça devient carrément autre chose. L'enfant a souvent même de difficultés à travailler en équipe parce que tellement on cherche à faire de lui l'intello qu'il est parfois coincé dans son environnement à lui. Les enfants ont du mal à vivre en société. Et c'est ce qui s'est passé dans le deuxième cas. Même si vous avez 10 000 domestiques, vos enfants doivent faire les tâches ménagères. Ça, c'est pas discutable. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre à un enfant de balayer ne serait-ce que la cour avant d'aller à l'école. Mais il faut dire que parfois, certains parents se disent, moi j'ai souffert quand j'étais mon enfant ne va plus souffrir.
Une certaine surprotection.
Exactement. Tellement il y a une surprotection que les enfants deviennent autre chose. L'enfant peut avoir bien de bonnes notes, mais sur le comportement sociétal, ça devient un nul carrément.
Et donc la domestique qui pratiquement n'est pas allée à l'école se retrouve à mieux réussir sa vie que quelqu'un qui
exactement,
est parti à
l'école. Parce que quand on prend par exemple le cas d'un enfant, d'une fille qui ne fait rien de tes 10 doigts, je vais dire, elle ne connaît que le luxe, manger, dormir. Quand cette dernière va se marier, allez voir la catastrophe. Hein. C'est là que tu vas voir des sauces comme le lac Nokoué, la pâte carrément qui peut tuer l'oiseau sur l'arbre là-bas. Ça devient autre chose carrément dans son foyer. Et elle revient maintenant à la maison avec les pleurs. Pendant que la domestique qui s'occupait de son ventre avant réussit mieux dans son foyer. Vous voyez un peu le contraste? Alors, chers parents, éduquez vos enfants comme cela se doit.
Alors Christophe, lorsque Laurent Ladouce dit, je cite, « Sachons stimuler notamment chez nos filles des têtes bien faites, mais aussi des cœurs et des mains qui aiment donner », à quoi fait-il référence?
Il fait référence à considérer la valeur que chaque enfant, que chaque personne possède. C'est vrai, nous sommes différents, mais nous avons tous des qualités. Et du fait que ces enfants viennent à travers certaines conditions, on relègue totalement cette plus-value, ses compétences. Et on essaie de tuer, on tue en eux, on tue en ses enfants, toute cette valeur, toutes ces qualités. Donc c'est sans doute ça. On doit être vigilant, même si ce n'est pas mon enfant qui est avec moi, détecter les bonnes actions, les bonnes qualités que cet enfant a. Et c'est ça quelquefois qui fait que certaines tutrices aux parents comprennent. Et ces qualités qui manquent, peut-être au niveau de leurs enfants qui sont tout le temps dans les cahiers, lorsqu'ils trouvent ces qualités, leurs propres enfants sont mis au deuxième rang et toute la confiance est donnée à ses enfants parce que ce n'est pas seulement les papiers, mais la vie sociétale est autre chose. Donc la maman, ne trouvant pas ça chez ses enfants, est obligée de se rapprocher de l'autre et de lui confier tout. Ses enfants sont très riches en qualités. Et quand on échange avec eux, quand on vit avec eux, on comprend qu'il suffit juste de les accompagner un peu et vous verrez.
Alors Rosalie, quelle est selon vous la meilleure façon d'éduquer ces progénitures, de les faire participer aux tâches ménagères quand bien même la domestique est présente?
La meilleure façon, c'est de faire comme s'il n'y a pas de domestique dans la maison. Je m'explique. Même si vous avez une domestique, les matins, votre enfant doit se lever très tôt et balayer avant de partir. Si c'est une maison carrelée et qu'il n'y a pas de truc à balayer comme cela se doit, qu'il faut sûrement essuyer, qu'il fasse la vaisselle avant de partir. Imposez-lui ça, même si c'est coup de 7 heures, que l'enfant se débrouille à se réveiller à 6 heures et fait ce qu'il doit faire avant de partir. Expliquez-lui clairement que la domestique qui est là a seulement certaines tâches à accomplir. Et non tout dans la maison. Quand vous commencez par leur expliquer ça, qu'ils se mettent dans leur petite tête que la domestique n'est pas à leur solde. Surtout ça, la domestique n'est pas à la solde de vos enfants. Elle est là seulement pour vous aider dans votre foyer en général. Donc, si les samedis, il y a de la lessive, que vos enfants s'occupent d'une partie de la lessive aussi. Ou soit que les enfants fassent la lessive ensemble avec la domestique. S'il y a à préparer à la cuisine, que vos enfants assistent quand même la domestique aussi en cuisine. D'ailleurs même, on dit quand vous êtes beaucoup, ça va plus vite. quand ça va vite finir, ils vont rejoindre leur cahier. Moi, je pense qu'il n'y a même pas de meilleure manière. Quand tu es un parent et que tu es soucieux de la réussite de tes enfants, il n'y a aucun argument qui va justifier le fait que tu ne puisses pas éduquer tes enfants proprement à faire toutes les tâches ménagères.
Femme domestique, femme battante, Rosalie, que dire pour conclure?
Pour conclure, je dirais que les domestiques, il peut arriver qu'on ne puisse pas s'en passer, que nous ayons toujours besoin d'une aide dans nos foyers, mais faisons-le avec un cœur généreux. Soyons généreux envers les personnes que nous employons. Et même si nous avons des domestiques, ne ratons pas l'éducation de nos enfants afin de ne pas être pointés du doigt par ces mêmes enfants qui vont nous accuser.
D'accord. Et vous, Christophe, quel est votre mot de la fin?
Moi, je dirais simplement que cette situation des enfants vidomégons, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des parents géniteurs, c'est l'affaire des parents tuteurs, c'est l'affaire de la communauté. Parce qu'un enfant est maltraité quelque part, il nous revient à nous, membres de la communauté, de réagir. Mais il se fait que dans la plupart du temps, nous sommes des observateurs. C'est moi qui vais dire pour me causer des problèmes. Donc, c'est à ce niveau que je demanderai à toutes les parties prenantes de la communauté de participer, de contribuer au respect des droits des enfants vidomégons. Parce que c'est une situation, une réalité qu'on ne peut pas déplacer, mais que nous pouvons améliorer et permettre à ces enfants qui ont de la qualité de vivre pleinement, eux aussi, leurs rêves.
Merci Christophe. Les domestiques, femmes de ménage, qu'elles soient adultes ou mineures, jouent un rôle prépondérant dans les couples. Aujourd'hui, elles sont à l'honneur. Bravo femmes battantes, bravo femmes africaines. C'est ici que se referme cette émission. Présentation Gloria Adjivesole, partie technique Ferdinand Zamba, réalisation Romuald Logo, coordination éditoriale Ulrich Vital Arotondi. On se dit à bientôt.
La chronique en débat, c'est l'actualité éducative avec l'éditorial de l'Espère, comme l'a vu Maudie Johnson, analysé et commenté par Laurent Ladouce. La chronique en débat, c'est chaque semaine sur la web radio du groupe Éduc Action.